Donc, je vais vous parler de l'interface électro-électrolyte dans les électrodes de supercondensateurs. Et comme je disais, c'est à leur façon aussi, ça va contrôler bien sûr la clé de la performance. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la chimie du solide, puisque je suis absolument incompétent. Mais je vais vous parler des supercondensateurs et comment, quand on étudie ce qui se passe à l'interface électrolyte, on peut remonter à un peu tout ce qui se passe lors de l'absorption, les flux ioniques dans des milieux confinés et qui donnent lieu à des choses vraiment intéressantes. Alors juste un peu pour introduire ce que sont les supercondensateurs, qui sont beaucoup moins connus que les batteries, mais c'est le fameux diagramme d'Oragon que Jean-Marie Tarascon vous a présenté tout à l'heure, avec la densité de puissance et densité d'énergie. Vous voyez qu'on a bien sûr les batteries lithium-ion, lithium-ion avancé ici, beaucoup d'énergie, peu de puissance. Et ici, en fait, on a les supercondensateurs qui sont des systèmes de puissance avec beaucoup moins d'énergie que dans les batteries. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près 40 fois moins d'énergie, de densité d'énergie ou 20 fois moins de densité d'énergie dans les supercondensateurs. Mais par contre, on a 20 à 30 fois plus de puissance. Alors, ça donne des constantes de temps d'application de 30 secondes. On a peu d'énergie, mais on peut la charger et la décharger très rapidement. C'est vraiment le système. Alors, si on veut comparer, la batterie, c'est le marathonien, et les supercondensateurs, ce serait plutôt le sprinter. Donc, on a des performances intermédiaires avec ces systèmes entre condensateur et batterie. Alors, pourquoi ces performances intermédiaires? C'est parce qu'en fait, tout ça provient de la façon dont est stockée la charge. Dans la batterie, ce sont des réactions redox. Dans les supercondensateurs, on n'a pas de réaction redox. Ce qu'on va faire, en fait, quand on va plonger l'électrode dans l'électrolyte, et quand, par exemple, on va injecter des charges négatives si on injecte une charge négative dans une électrode dans un électrolyte. Ce qu'on fait dans toute réaction redox, c'est de venir ici faire l'absorption des contre-ions, les charges positives, à la surface de cette électrode pour neutraliser cette charge. Eh bien, vous voyez qu'on forme ainsi deux plans, un plan positif, un plan négatif. C'est un condensateur avec l'expression d'une capacité ici. Cette capacité, ça s'appelle la capacité de double couche. Et cette capacité, elle est proportionnelle à la permittivité du diélectrique, enfin la permittivité de l'électrolyte ici. Et elle varie en 1 sur D, D étant la distance d'approche des ions. Comme cette distance est très petite, en fait, eh bien on a une capacité qui vaut de 10 à 20 microfarads par centimètre carré, ce qui est très peu. Alors, si maintenant l'astuce, ça va consister, au lieu de prendre une électrode plane de rugosité 1, de prendre des électrodes très, très, très ouvertes, avec une porosité très développée. Et tout ça c'est fait grâce au carbone, donc des carbones poreux. On sait, on connaît le carbone, on connaît bien le carbone, s'il existe sous différentes formes, et on sait travailler à la surface du carbone pour développer des structures excessivement poreuses et qui développent plusieurs centaines de mètres carrés par gramme, donc entre 1000, 1500, 2000 mètres carrés par gramme. Et donc, lorsqu'on va avoir la charge ou la décharge d'un supercondensateur, on va charger par exemple ici, on va injecter des charges positives dans le carbone et on va avoir les ions d'électrolyte, les anions, qui vont venir s'absorber à l'intérieur, migrer, diffuser et venir compenser cette charge. La même chose de l'autre côté. Et donc, ça, c'est intéressant. Parce que, bien évidemment, on peut stocker une charge en surface qui est disponible très rapidement. On peut se charger, décharger très vite. C'est pour ça que ce sont des systèmes qui ont des constantes de temps d'une trentaine de secondes. Par contre, différemment des batteries, comme on ne stocke pas la charge dans le volume des matériaux, avec les réactions redox, on ne casse pas de l'usine chimique, c'est du stockage électrostatique, on a des densités d'énergie beaucoup plus faibles. Or, ces carbones, ils sont obtenus en général par une oxydation contrôlée, avec les guillemets qu'il faut contrôler, parce qu'on fait une oxydation, on fait du carbone, et on développe des pores, on oxyde le C en CO2, et comme ça, on fait des pores de la porosité. Alors, ici, comme dans un diélectrique, en fait, comme dans un condensateur classique, le diélectrique, c'est l'électrolyte. Et le diélectrique, il a une tension de claquage. Ben, l'électrolyte, il a une fenêtre de stabilité, comme le mentionnait Jean-Marie. Et si on travaille dans un électrolyte non aqueux, organique, avec un solvant qui serait, par exemple, de l'acétonitrile, et des sels avec un cation à base d'ammonium et un anion à base de fluorure, eh bien on a des tensions max, on peut charger et décharger jusqu'à 2,7 volts, 3 volts. Donc voilà comment ça se passe. Alors les applications, très rapidement, les grosses applications qui se développent ici, c'est le tramway, les bus et le stop and start. Pourquoi ? Le stop and start, c'est que vous redémarrez la voiture au feu rouge, que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, et c'est un alternant démarreur qui vous lance le moteur thermique. Ça, c'est que de la puissance. Donc, pour les supercondensateurs, c'est excessivement bien. Et on peut faire aussi la récupération d'énergie de freinage avec ces systèmes, puisqu'on freine pendant quelques secondes. Une grosse application, c'est dans les tramways. Alors, il y en a partout dans le monde. Quand un tramway freine, en fait, on peut récupérer l'énergie de freinage du tramway qui freine sur la même ligne dans les supercondensateurs. Et puis, il y a les tractions électriques. On peut faire aussi des bus sur des circuits fermés. Quand vous avez un petit kilomètre entre deux stations, eh bien, en fait, le bus, lui, il a une autonomie de, on va dire, 2-3 km, parce que les supercondensateurs, ce n'est pas de l'énergie, ce n'est pas fait pour faire la traction. Mais si vous avez des petits arrêts de 1 km max entre les deux, eh bien, l'intérêt, c'est que vous rechargez aussi vite que vous déchargez. Vous rechargez en 15 secondes. Donc, vous rechargez pendant l'échange passager. Voilà un peu ces systèmes. Donc, en fait, les supercondensateurs électrochimiques, les EDLC qu'on appelle, ce sont donc des électrodes de carbone avec un électrolyte. Ben, si on regarde l'électrode de carbone, je vous ai dit, c'est quelque chose de très ouvert. Eh bien, tout ça, si on prend un supercondensateur, une électrode de carbone, l'électrolyte, une autre électrode de carbone, on voit que les ions, il faut qu'ils rentrent, qu'ils sortent de ces électrodes poreuses. Et tout ça, ben, ça va exacerber le rôle des interfaces, puisque nous, ici, on a des électrodes de très, 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 très grande surface, encore une fois. On a des surfaces développées, des surfaces spécifiques qui sont 30-40 fois plus grandes que celles des matériaux de batterie en moyenne, donc jusqu'à 2000 m² par gramme. Et donc, ces interfaces, elles vont contrôler tout ce qui va se passer, tout le mécanisme de charge du supercondensateur. En particulier, c'est, puisqu'on est dans des carbones poreux avec des pores nanométriques, eh bien, les ions ils vont être confinés quand ils vont rentrer dans les électrodes de carbone. On va les retrouver confinés dans ces nanopores de 1 nanomètre et moins. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout ça, c'est les interfaces qui vont contrôler ça. En fait, quand on a ces interfaces de grande surface qui confinent les électrolytes dans des pores nanométriques, eh bien, il va falloir qu'on comprennent comment les ions vont rentrer dans ces pores, vont s'absorber, et comment vont se dérouler les flux ioniques à l'intérieur de ces structures nanoporeuses. Et là encore, c'est tout ce qui se passe aux interfaces. Et donc, ce qui est très important au travers de ces interfaces, c'est la relation entre la taille de pore et la taille des ions. Donc, en fait, les défis pour les supercondensateurs, c'est principalement d'augmenter la densité d'énergie. La densité d'énergie des condensateurs, c'est 1/2 de CV2. C étant la capacité, V la tension. Donc, le premier point, le plus facile, c'est travailler sur la capacité. Et donc, encore une fois, travailler sur la capacité, ça veut dire comprendre comment l'électrolyte à l'intérieur va se déplacer, comment les ions vont s'absorber, l'environnement des ions dans ces systèmes en dynamique. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Ensuite, l'autre idée, c'est d'augmenter la tension de cellules. Alors, bien sûr, ça, c'est le graal de tous les gens qui travaillent sur les batteries aussi, mais je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire en utilisant les liquides ioniques sous deux formes, liquide ionique pur et liquide ionique à base de ionogène. Et puis enfin, je vous parlerai des perspectives, un peu ce qu'on peut espérer sur ces systèmes, sur ces matériaux, dans les prochaines années. Donc on va commencer sur la capacité, et là je vais faire un petit historique, un petit retour en arrière. Donc c'était en 2006. Là vous avez ici, on prend des carbones, on va les tester. Il me manque un slide. Bon, eh bien, j'ai perdu un slide, c'est pas très grave. On prend ces carbones, on va les tester dans des électrolytes, on va mesurer la capacité de stockage des charges. Donc on va obtenir des farades, on connaît la masse de carbone qu'on a dans l'électrode, on a donc des farades par gramme, et on divise par la surface spécifique, ça fait des microfarades par centimètre carré. Et là, on va rapporter ça en fonction de la taille moyenne des pores. Eh bien, sur cette vue très simpliste, vous voyez qu'on a un pore de carbone et on vient absorber les ions dans le pore de carbone, ce n'est pas tout à fait la vérité. Et quand on est dans un électrolyte, encore une fois, solvant acétonitrile avec un gros cation tétraéthylammonium, un petit anion tétrafluoborate, il faut savoir que ces ions solvatés, ils ont une taille de 1,5 à 2 nanomètres. Ce qui veut dire que si on a un ion qui fait 1,5 à 2 nanomètres solvaté, bien, évidemment, on pensait qu'il fallait des pores entre 2, 4, 5 nanomètres pour maximiser la capacité. Et bien évidemment, tout ce qui concernait les pores inférieurs à 1, 2 nanomètres, donc des pores très petits, on pensait que ces pores étaient complètement inaccessibles puisqu'ils sont inférieurs à la taille des ions solvatés. Le problème, c'est que pour vérifier ça, c'était très compliqué parce qu'on ne savait pas faire de pores de carbone à porosité contrôlée dans le domaine, vous voyez, entre 0,5 et 1,5 nanomètres. Donc tout ça, c'était des supputations. Donc encore une fois, les micropores, les tout petits pores inférieurs à 2 nanomètres, inutiles parce que les ions ne rentrent pas. Eh bien, ce qu'on a fait il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, c'est on a essayé de synthétiser des carbones poreux avec une taille de pore très contrôlée, inférieure à 1 nanomètre. Et donc on est parti de carbure de titane, et on a fait la chloration ici, et à partir de cette chloration, donc vous enlevez le titane sous forme de gaz et vous obtenez du carbone. Et ce carbone, il est poreux, puisque dès qu'il y a un titane qui s'en va, il y a une lacune. Et si vous chauffez à différentes températures, les lacunes coalescent, et vous pouvez parfaitement contrôler la taille des pores en fonction de la température de synthèse. Là, je vous ai donné des exemples, par exemple, un carbone qui est fait à 400 degrés. Si vous faites cette réaction à 400 degrés, ça, c'est le volume poreux en fonction de la taille des pores. Vous voyez que vous avez un pic ici, à 0,68 nanomètres. Donc vous faites des ports de 0,68 nanomètre, plus ou moins, on va dire plus ou moins 20%. Et en fonction de la température de chloration, on fait des séries de carbone avec ici des tailles parfaitement contrôlées, 0,6, 0,7, 0,76, 0,8, 1 nanomètre. Et donc là, on a été sûr de la taille de nos ports. Alors vous voyez, ce sont des structures, les structures réelles, hein, réelles, c'est la modélisation. Les ports, ils sont ici. Donc, on a fait les caractérisations de ces carbones, mais de façon très rapide. Vous voyez que la surface spécifique ici, en fonction de la température de chloration, ben, elle est entre 1000 et 1500 m2 par gramme. Très bien pour les applications supercondensateurs. Donc là, je devrais retrouver mon slide. Voilà. Donc, ce qu'on fait au laboratoire, on prend ces poudres de carbone, qu'on appelle des CDC, ce sont des carbones dérivés de carbure, puisqu'on part de TIC. Et on mélange cette poudre à un liant, on obtient un film. Ce film, on fait des électrodes. Ces électrodes, on les met ici. On met des collecteurs de courant, on assemble ça, et puis on fait des caractérisations. Alors, vous savez tous que Q égale CV, d'accord ? Donc C est égal à I sur dV sur dT. Mais vous voyez que si on considère que la capacité de double couche est constante, si on impose un courant de charge constant, eh bien dV sur dT, la variation du potentiel en fonction du temps, est une droite. Donc là, je charge à courant constant. J'ai une relation linéaire entre le potentiel et le temps. J'arrête un potentiel donné, 2,3 volts, et je décharge à moins I. Voilà. Et par cette méthode-là, je mesure les capacités. Donc ici, qui est inversement proportionnel à la pente. Ici, c'est une deuxième forme de caractérisation, c'est une voltamétrie cyclique. Je contrôle ma vitesse de balayage en millivolts par seconde entre un potentiel minimum et un potentiel max. Eh bien, si dV sur dT est constant, par exemple plus 20 millivolts par seconde, si la kappa est constante, ça me donne un courant de charge constant. Vous voyez, j'ai un courant de charge constant. Et là, je reviens à une vitesse de balayage négative. Donc, en fait, quand j'ai un rectangle, c'est une signature capacitive qui fonctionne sur l'absorption des ions. Eh bien, tout ce qu'on a fait sur ces matériaux-là, ce sont les points qu'on a obtenus avec nos matériaux qui ont des tailles de port entre 0,6 et 1,5 nanomètres. Ben, vous voyez que, contrairement à ce qu'on pensait, au lieu que la capacité se casse complètement la figure, on voit que la capacité, elle augmente quand on va dans ces tout petits ports. Et si elle augmente, hein, si on a, la capacité augmente dans des ports dont la taille est inférieure à celle des ions solvatés, ben ça veut dire que les ions peuvent se désolvater partiellement pour accéder à ces ports. Alors ça, c'était quelque chose d'un peu nouveau à l'époque, et puis depuis ce temps-là, on essaie de comprendre un peu comment ça se passe, comment les ions rentrent, sortent, quel est l'état de l'électrolyte quand il est confiné dans ces électrodes. Alors, vous voyez que ces résultats, ça montre qu'il faut oublier un peu la structure idéale avec la double couche sur chaque paroi des carbones et passer dans un système où on est très confiné. Donc, le modèle de Guy-Chapman électrochimique qui vous montre un peu comment la charge, la décharge de double couche ne s'applique plus quand on est confiné. Mais déjà, les structures réelles, c'est ça. Donc c'est complètement différent de ports cylindriques et parallèles. Et pour comprendre le confinement des ions, il faut aller vraiment chercher des informations à l'échelle très, très locale. Et donc, il faut des techniques complémentaires à l'électrochimie de base. Et je vais vous montrer trois points. Donc ça, ce qu'on a fait par des méthodes de microbalance à quartz électrochimique. Ensuite, des mesures par RMN in situ et des mesures expérimentales par diffusion des X avec de la modélisation. Pour essayer toujours l'objectif de comprendre, caractériser l'électrolyte lorsqu'il est confiné dans ses ports. Alors, la microbalance à quartz électrochimique, c'est quoi ? Mais c'est une technique qui vous permet de mesurer la variation de masse d'une électrode lorsqu'elle est sous polarisation. Alors, c'est très simple. En fait, vous prenez un quartz piézoélectrique, vous déposez dessus du carbone avec un électrolyte, et ce carbone, en fait, il va venir adhérer au quartz, et ce quartz, vous l'utilisez comme une électrode de travail dans une cellule électrochimique. Et ce quartz, il a une vibration de résonance, il vibre à une fréquence de résonance. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer au cours de la polarisation la variation de cette fréquence de résonance. Et cette fréquence de résonance, quand la masse de l'électrode change, elle varie. Et on a une relation, la relation de Sauerbrey, qui vous donne la variation de masse en fonction de la fréquence de résonance. Et donc, quand on va polariser nos électrodes, on va être en mesure de connaître la variation de masse très précise de ces électrodes. Eh bien, si quand on fait des caractérisations électrochimiques, si on calcule la charge ici qui passe dans l'électrode, eh bien, la variation de la masse sur la charge, ça donne la masse molaire des ions adsorbés. Et c'est comme ça qu'on va remonter à ce qui se passe. Alors, je vais vous donner des exemples. Là, on a pris, par exemple, un carbone CDC de 1 nanomètre, ici, et on l'a mis dans un électrolyte. Vous voyez, le solvant, c'est l'acétonitrile. L'électrolyte, ici, c'est un gros cation, un imidazole, et un gros anion, un imide. Eh bien, on part ici du potentiel, ça c'est une voltamétrie cyclique, le courant en fonction du potentiel. Ce que je vous disais, c'est qu'on se déplace à une vitesse de balayage constante, positive, négative, positive. Vous voyez, ça, c'est une signature rectangulaire. Ça montre qu'on joue uniquement avec l'absorption, la désorption des ions. Là, on est dans les domaines des potentiels et des charges négatives, ce qui veut dire qu'on regarde l'absorption des cations. Ben, si on explore le domaine des potentiels positifs par rapport à l'OCV, ça veut dire qu'on regarde l'absorption des anions. Bien, quand on regarde ces courbes-là, ben, on a des signatures complètement capacitives, ce qui veut dire que les ions rentrent, accèdent aux pores. On a des pores de 1 nanomètre. On a une variation ici, ça c'est la variation de masse, ici, la variation de fréquence, pardon, et cette variation de fréquence, ça vous traduit une variation de masse de l'électrode pendant la polarisation. Alors, ça, c'est important, mais ici, on a aussi une variation de masse pendant la polarisation de l'électrode. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir essayer de détecter un peu qu'est-ce qui rentre et qui sort. Et ici, ce qu'on peut faire à partir de ces expériences, c'est qu'on peut intégrer la charge en continu, en fonction du potentiel, la charge Q qu'on injecte dans l'électrode. Et on va représenter la variation de la charge Q en fonction de la masse, et on va obtenir des masses molaires. Alors, si j'intègre encore une fois la charge sous la voltamétrie cyclique ici, je vais arriver à une variation de masse de l'électrode en fonction de la charge, pour les balayages en potentiel négatif, en charge négative, et les balayages en potentiel positif, en charge positive. Alors, delta M en fonction de Q, c'est la loi de Faraday, ça donne une masse molaire. Nous, on a utilisé des ions, ici EMI+, et TFSI-. Alors, en charge négative, si j'injecte un électron, c'est un cation qui doit rentrer. Le cation, c'est EMI+, il fait 111 g par mol. Eh bien, voici la droite qui donne une masse molaire de 111 g par mol. Si j'injecte une charge négative, une charge positive, c'est un anion qui rentre. Et voici la droite qui donne la masse molaire de l'anion nu, sans molécule de solvant, 280. Alors, on va regarder d'abord ce qui se passe en charge négative. Vous voyez qu'en charge négative, eh bien, j'ai une masse expérimentale qui est supérieure à la masse théorique qui doit rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, je fais rentrer plus qu'un cation. Ben, si je fais rentrer plus qu'un cation, c'est que la différence entre le réel et le théorique, c'est le nombre de molécules de solvant. Eh bien, je peux calculer ici qu'un cation rentre avec 3,6 molécules de solvant. Et dans l'électrolyte libre, un cation est entouré de 8 molécules de solvant. Ça veut dire que le cation, il rentre partiellement désolvaté. Et ça, c'était une mesure expérimentale de la désolvatation. Par contre, si je regarde ce qui se passe ici au niveau des charges positives, ben, vous voyez, j'ai deux zones. Ici, à faible charge, ben, j'ai une pente expérimentale qui est inférieure à la pente théorique. Alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que quand j'injecte par exemple une charge positive dans le carbone, eh bien, j'ai par exemple 0,5 anions qui rentrent et 0,5 cations qui sortent. Et c'est pour ça que mon delta M il est inférieur à la masse théorique. C'est-à-dire que là, j'ai un échange ionique entre les cations et les anions. Là, j'ai qu'un cation qui rentre pour compenser la charge négative, et ici, j'ai échange anion-cation. Et par contre, après, quand je vais sur des grandes charges, eh bien là, je récupère effectivement la masse théorique. Donc ça, ces résultats, ça nous montre que, en fait, ben, on a un mécanisme de stockage des charges différent suivant la polarité dans le carbone du supercondensateur. Ici, on est en charge négative, que des cations qui rentrent pour compenser les anions, les charges négatives. Et ici, en charge positive, j'ai un échange anion-cation. Alors ça, c'était ce qui se passait pour un carbone de 1 nanomètre. Si on diminue la taille des pores, si on prend un carbone de 0,65 nanomètres, on fait des pores plus petits, eh bien, vous voyez ici, ce qu'on voit, c'est que là, toujours pareil, côté cation, ben, j'ai plus de masse que la masse théorique, et ce qui veut dire que je fais rentrer des cations avec 1,4 molécules de solvant. Donc, je désolvate encore plus. Plus le pore est petit, plus les ions rentrent désolvatés. Et par contre, côté ici, charge positive, quand j'injecte des charges positives, je n'ai pas de variation de masse, mais c'est-à-dire que je n'ai pas d'ions qui rentrent. Et je n'ai pas d'ions qui rentrent à cause de l'effet stérique. Les ions, les anions, ils sont trop gros. Donc ça, c'est quand même c'est important de montrer qu'on a des mécanismes de stockage différents en fonction des électrodes. Mais en fait, le problème, c'est que quand on a par exemple une masse théorique de 179 g par mol, je vous ai dit que c'est un seul ion, un cation qui rentre, avec deux molécules de solvant. Mais on peut très bien imaginer que c'est un cation qui rentre, avec 5 molécules de solvant et 3 molécules de solvant qui sortent. Ça fait le même delta M. Alors ça, comment peut-on savoir comment discriminer entre les deux ? Eh bien, c'est faire des mesures par RMN in situ. Et on a fait des mesures par RMN in situ avec l'Université de Cambridge. Donc on a pris un électrolyte, alors ce n'était pas du tétraéthylammonium, c'est tétraéthylphosphonium, et toujours pareil, du BF4-. On a pris le carbone poreux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi le signal du phosphore et le signal du fluor. Et là, je vous montre la variation du signal de RMN. Quand on ajoute, on prend de la poudre, on ajoute des volumes croissants d'électrolytes. Et vous voyez ici, quand on rajoute très très peu d'électrolytes, ben, tout l'électrolyte rentre dans la porosité. Et on a ici un pic, on a un déplacement chimique ici pour le fluor ou ici pour le phosphore. Mais par contre, tous les ions, ils sont dans la porosité. Et quand on va ajouter des volumes croissants d'électrolytes, vous voyez qu'on fait apparaître un second pic ici. Et quand on a beaucoup d'électrolytes, eh bien, ça, c'est le signal de l'ion BF4- qui est dans l'électrolyte libre. Il n'est pas dans les pores. Et tout le signal de tous les ions qui sont dans les pores, ils sont dans ce signal qui est décalé vers les valeurs négatives du signal. Et en fait, ça vient de l'effet des domaines graphitiques du carbone qui vient écranter le champ. Donc en fait, l'information des ions qui sont rentrés dans les pores, elle est ici. Ça, c'est les anions qui rentrent dans les pores, ça, c'est les cations qui rentrent dans les pores. Et quand on intègre l'air sous ces pics, eh bien, on peut remonter au nombre d'ions qu'il y a dans les pores. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures de RMN in situ à différents potentiels. On a pris la cellule, on a polarisé à 0, à 0,5, 1 volt, 1 volt 5, 2 volts, et on a regardé la variation de la population des ions. Et vous avez ici la variation de la population des ions en fonction du potentiel de la cellule. Eh bien, vous voyez, là, ici, on est dans les potentiels négatifs. Potentiel négatif, ça veut dire que normalement, ce sont les cations qui viennent compenser la charge. Ben, ce que vous voyez, c'est que la population des anions, elle est à peu près constante en fonction du potentiel, tandis que celle des cations augmente très fortement. Mais ça confirme les mesures de QCM qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est principalement les cations qui compensent la charge en polarisation négative. Et en polarisation positive, ici, vous voyez, ben, quand vous injectez, par exemple, une charge positive, vous avez 0,5 anions qui rentrent et 0,5 cations qui sortent. Et ça, c'est aussi le mécanisme d'échange ionique qu'on avait identifié par EQCM. Et là, encore une fois, on a vraiment un mécanisme, on met en évidence un mécanisme de stockage qui dépend vraiment de la polarité. Et ça, on n'a toujours pas entièrement compris. Et ce qu'on est en train d'étudier, c'est l'influence du solvant et de la nature des ions sur ces études mécaniques. Sur les 10 électrolytes qu'on a testés, on a observé 8 fois ce type de mécanisme, cette différence. Et sur 2 électrolytes, on a observé quelque chose de symétrique. Et on est en train de comprendre pourquoi les anions sont stabilisés dans ces structures de carbone. Voilà. Donc, alors, ces mesures, elles sont intéressantes parce que c'était sur des carbones modèles, des carbones poreux, mais ça aussi conduit un peu la communauté à repenser la caractérisation des matériaux poreux avec des pores nanométriques. Et en fait, l'équation BET qui nous sert à... Alors, comment on mesure des surfaces et des pores? Ben, on fait des mesures par adsorption de gaz. On injecte un volume de gaz donné, on attend que le gaz se mette en équilibre avec le carbone poreux ou le matériau poreux. On mesure la pression d'équilibre et on trace un isotherme d'adsorption à différentes pressions. Et avec des modèles mathématiques, on remonte à la structure des carbones poreux. Donc l'équation qui est traditionnellement utilisée, donc, tout le monde s'est rendu compte qu'elle n'était pas valable pour les carbones microporeux avec des petits nanopores. L'utilisation de gaz argon, elle n'est pas valable non plus, parce que quand on fait les mesures de caractérisation par gaz argon, on a des moments quadripolaires qui viennent un peu perturber les mesures. Et surtout, les mesures de taille de pore, les mesures de volume poreux, elles sont basées sur les tailles de la sonde. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, ce que la communauté a admis, c'est que pour mesurer les surfaces et les tailles de pore et les volumes poreux des carbones, nanoporeux, pardon, il faut utiliser de l'argon et des surfaces qui sont calculées à partir de modèles quantiques, la DFT ou la NLDFT. Et surtout, il faut regarder la surface accessible aux ions qui dépend vraiment de la taille de la sonde, qui dépend de la taille de l'ion. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ces résultats ils sont un peu généralisables à beaucoup de carbones, tous les carbones. Donc, c'est une série de carbones qui a des mesures qui ont été faites. Donc, c'est des carbones oignons, des carbones activés aux commerciaux, des CDC. Et donc là, on a mesuré les tailles de pores en utilisant du gaz CO2 et du gaz CO2 pour les tout petits pores et du gaz azote pour les pores très gros. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré la taille accessible, ou les pores accessibles aux ions. C'est-à-dire que quand on a un ion BF4-, l'ion BF4-, il fait 0,4 nanomètres. Donc on a considéré que pour l'ion BF4-, les pores accessibles, la surface accessible, c'était pour les pores supérieurs à 0,4 nanomètres. L'ion tétraéthylammonium, il fait 0,62 nanomètres, donc on a considéré pour la surface accessible tous les pores supérieurs à 0,6. Et donc quand vous tracez la courbe ici de la surface accessible en fonction de la taille de pore, pour l'ensemble des carbones, eh bien, vous avez capacité normalisée en fonction de la taille des pores, vous avez la courbe qu'on retrouve avec l'augmentation de la capacité dans les nanopores. Et donc ça montre un peu que c'est une généralisation de ce qu'on avait observé avec des matériaux modèles. Ça généralise à tous les carbones poreux qu'on peut faire. Dès qu'on a de la nanoporosité, dès qu'on a les pores nanométriques, eh bien, on a une augmentation de capacité qui est due à la désolvatation des ions. Donc voilà. Alors, de façon pratique, ces résultats, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'avant, donc on est passé, aujourd'hui, pardon, ces carbones microporeux naturels, quand on les contrôle, quand on contrôle bien la surface, eh bien on peut atteindre maintenant des tensions de 3 volts par cellule, et ça, ce sont les supercondensateurs de Maxwell, ça fait du 7 watts par kilo. Donc ça, c'est 2016. Et puis, en 2018, très récemment, en janvier, d'autres sociétés, donc ce sont des carbones synthétiques microporeux qui sont inspirés des CDC, eh bien, vous voyez que là, vous atteignez des densités d'énergie de 9,5 watts par kilo. Donc maintenant, les supercondensateurs, ils sont quasiment à 10 watts par kilo. Alors, ça a l'air de pas grand-chose, mais en fait, en 2005, on était à 4,5 watts par kilo. On a doublé la densité d'énergie en disant, c'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais ça montre que quand on travaille sur l'aspect un peu fondamental de l'absorption des ions, on peut vraiment comprendre des choses. Et là, on estime qu'on pourra arriver facilement à 15 watts kilo, ce qui fait des constantes de temps de 45 secondes à la minute, et ça commence à devenir vraiment intéressant pour ces systèmes-là. Alors, si je reviens un peu à cette notion de solvatation, en fait, la notion de solvatation, c'est que vous avez un ion qui est entouré de molécules de solvant. Puis il y a des liquides, des électrolytes qu'on appelle les liquides ioniques, qui sont des électrolytes sans solvant. Ce sont des sels liquides à température ambiante. Donc c'est comme si vous prenez un ACL, on le chauffe à 800 degrés, c'est liquide, c'est Na+, c'est L-. Mais nous, on connaît des liquides ioniques qui sont liquides à température ambiante. Et qu'est-ce qu'ils offrent comme caractéristique ? Ben, ils ont une grande stabilité en potentiel puisqu'il n'y a pas de solvant. Il n'y a pas d'oxydoréduction du solvant. C'est que le sel qui est stable. Par contre, il y a une conductivité limitée à température ambiante, quelques millisiemens par centimètre. Et en plus, la plupart du temps, en dessous de 0 degré, ils sont quasiment solides. Donc, il n'y a pas trop de conductivité à température négative. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un électrolyte modèle, parce qu'il n'y a pas de cortège de solvatation, ce sont des ions nus. Là, on n'a pas de sphère de solvatation. On joue vraiment avec la taille des ions nus. Et si on regarde ces cations dont je vous parlais tout à l'heure, le cation est Mi+, et l'anion est TFSI-, on s'aperçoit que ce sont des ions qui ont une taille à peu près de 0,76 nanomètres, 0,79 nanomètres. Et il y a quelques années, on a refait nos expériences de capacité dans ces électrolytes. Donc ça, c'est la capacité en fonction de la taille des pores dans des électrolytes EMI, TFSI, seuls, nus. Eh bien, vous voyez que le maximum de capacité, on l'avait trouvé expérimentalement à 0,72 nanomètres, c'est-à-dire très proche de la taille des ions. C'est-à-dire que là, ce qu'on montrait, c'est que lorsque la taille des pores est proche de la taille des ions, eh bien, on a un maximum de capacité. Et ça, la question à l'époque, c'était pourquoi ? Comment ça se fait qu'un ion peut rentrer dans un port qui est à peu près de sa taille ? Et comment ça se fait qu'on récupère un maximum de capacité ? Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié et dont on commence à avoir des réponses. Et ce qu'on a fait très récemment, c'est qu'on a étudié, en fait, le confinement de ces liquides ioniques, EMI-TFSI, dans des pores de carbone. Alors, on a pris des carbones de 1 nanomètre et des carbones de 0,7 nanomètre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le carbone, on l'a imprégné de liquide ionique, et on a fait de la diffusion des X dessus, et après, on a fait de la modélisation. Donc, on fait la diffusion des X, on enregistre le spectre, on calcule les facteurs de structure réduits, on calcule les contributions, les interactions des ions, et on peut remonter l'organisation des ions dans les pores. C'est ce que je vais vous montrer là. Là, vous avez les diagrammes de diffraction, de diffusion X, du liquide ionique cristal, lorsque c'est un solide, du liquide ionique liquide, et du liquide ionique confiné dans des carbones de 1 nanomètre, et du liquide ionique confiné dans des carbones de 0,7 nanomètre. À partir de ces spectres de diffusion, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les facteurs de structure réduits, on fait de la modélisation, et vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le liquide, on a pris d'abord le liquide, le MITFSI liquide sans carbone, hein, qui est vraiment dans son élément liquide, et on est venu, ici, là vous avez le spectre noir, c'est celui-ci, on est venu, grâce à la modélisation, recalculer le spectre théorique, donc ça, le spectre théorique, c'est le noir, pardon, et le spectre réel, c'est celui avec les petites sphères. On est venu recalculer ce spectre théorique, mais grâce à la modélisation, par des méthodes de Monte Carlo, on a accès aux interactions anion-anion, cation-cation, anion-cation, et on a accès aux interactions intramolécules. Et ça veut dire que grâce à ça, grâce à cette modélisation, on peut remonter à la localisation géométrique des ions dans les pores. Et si on prend la transformée de Fourier de ça, on fait ce qu'on appelle la distribution de densité électronique de fonction radiale. Là, vous avez ici la densité électronique en fonction de la distance. On prend par exemple les anions, on regarde les interactions anion-anion ici. D'accord ? Anion-anion, TFSI-TFSI. On prend un anion et on va regarder, en partir de cet anion dans une direction, dans la direction du port, où est le maximum et le minimum de densité électronique, c'est-à-dire où sont ses plus proches voisins. Donc ça, c'est en nanomètres. Et ce que vous voyez, c'est que lorsque le liquide, on est en milieu complètement liquide, ici, on a un minimum, ici à peu près à 0,4 nanomètres. Et lorsque vous confinez l'électrolyte dans un port de 1 nanomètre, ben, on change ici un peu, ce minimum, il augmente un peu. Et lorsque vous confinez à 0,7 nanomètre, là, vous voyez que ce minimum, il augmente beaucoup. Et c'est très significatif. Et ça, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que lorsque le liquide ionique est confiné dans le port, on a un anion qui vient très proche d'un autre anion. C'est-à-dire qu'on est créé, on crée des paires anion-anion, on crée aussi des paires cation-cation, et ces paires anion-anion, elles existent uniquement lorsque l'électrolyte est confiné. Et ce que vous voyez ici, c'est que si on prend un anion, et on va regarder autour d'un anion, ici par exemple dans le liquide, combien on a de cations et combien on a de cations. Un anion, c'est une charge négative. Normalement, il est entouré de cations. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Dans le liquide seul, un anion central, il est entouré de cations, là, il y a un petit résidu d'anion, bon, bref. Quand vous confinez, rien ne se passe dans un port de 1 nanomètre. Pardon. Et quand vous confinez dans un port de 0,7 nanomètre, vous voyez qu'autour d'un anion, eh bien, on a des anions qui viennent se rapprocher. On crée des paires anion-anion qui n'existent pas dans l'électrolyte libre, parce que les paires anion-anion, c'est les interactions de Coulomb qui gouvernent leur distance d'équilibre. Quand on confine l'électrolyte dans des ports de 0,7 nanomètre, on est capable de rapprocher les anions. Et ça, c'est très important, parce que ça montre qu'on peut mettre plus d'anions ou plus de cations. Et maintenant, si on fait ça sous potentiel, parce que là, c'est sans potentiel, donc on fait des petites cellules et on fait de la diffraction ici, de la diffusion des X in situ, on applique un potentiel. Ben, quand vous voyez, quand vous êtes sur, vous regardez l'anion, quand vous appliquez un potentiel de 2 volts, eh bien, vous voyez ici, vous avez à peu près 34% d'anions qui viennent très proches des anions. C'est-à-dire qu'en fait, on crée de plus en plus de paires anion-anion qui ne devraient pas exister, parce qu'on normalement, elles devraient se répulser, on devrait avoir des répulsions électrostatiques qui devraient faire qu'elles n'existent pas, ces paires-là. Mais lorsque on est confiné, elles existent. Et on a la même chose exactement pour les cations. Lorsqu'on polarise à moins de vol pour les cations, eh bien on a 43% de paires de cations, cations-cations, qui existent, alors que normalement, elles ne devraient pas exister. Et ça, ça veut dire qu'on augmente le nombre de paires de cations sous potentiel, ça veut dire qu'on peut charger, mettre plus d'ions dans les carbones nanoporeux lorsqu'on est confiné. Alors, ce qu'on montre, en fait, c'est que, vous voyez, c'est ce type de stockage qu'on a comme ceci, dans les carbones de 0,7 nanomètres, dans les carbones de 1 nanomètre, on crée vraiment ces paires de cations. Et pourquoi on les crée ? On commence à avoir des bonnes idées, mais en tout cas, ce qu'il faut associer derrière ça, c'est que dans un même port d'une longueur donnée, eh bien, au lieu d'avoir des ions qui sont espacés de 0,5 nanomètres, eh bien, on peut les espacer de 0,25 nanomètres, et donc on peut en mettre plus, et c'est pour ça que les capacités augmentent. Alors, ces résultats qui sont que de la théorie, en fait, ça a des applications pratiques parce que derrière, ce que vous pouvez faire des carbones microporeux. Donc, on fait des carbones microporeux à partir de noyaux d'olive. On a fait une carbonisation sous argon. On a rajouté un peu de KOH et on retraite sous oxygène pour faire le carbone poreux. Et on a voulu spécifiquement faire des carbones poreux. Ici, vous voyez, ici, faire des carbones poreux avec une taille de pore entre 0,7 et 0,9 nanomètres. Eh bien, d'après ce qu'on a vu, à 0,7 nano, on confine au maximum et on est capable de charger au maximum d'ions. Ce sont les mesures par modélisation et diffusion d'X. Ces deux carbones-là, 1, 4 et 1, 5, ce sont les meilleurs compromis avec le maximum de pores entre 0,7 et 1 nano. Et bien, quand on met ces carbones et qu'on les utilise dans l'électrolyte EMI-TFSI, dans le même électrolyte, et bien ça, ce sont les voltammogrammes qu'on obtient. Vous savez, signature capacitive rectangulaire, ça veut dire qu'on joue qu'avec l'adsorption des ions. Et on obtient des capacités de 180 farads par gramme. Un carbone normal dans un électrolyte liquide, il fait 120 farads par gramme. Donc on a une capacité de 180 farads par gramme pour ce carbone, dont la taille de pore a été à peu près contrôlée dans un liquide ionique. Et on a des courbes de puissance, la variation de capacité en fonction de la densité de courant, qui sont vraiment très bien, avec plus de 70 farads par gramme pour une densité de courant de 9 ampères par gramme. Alors ces valeurs, ça ne vous parle pas beaucoup, mais juste pour vous dire que ce sont les meilleures performances en carbone qui ont été reportées à ce jour dans un électrolyte EMI-TFSI pur, grâce au contrôle de la taille des pores et grâce à la compréhension de ce qui se passe aux interfaces. Donc voilà, et c'est vraiment le contrôle d'interface carbone-électrolyte est vraiment crucial pour l'optimisation des performances dans les électrodes de supercondensateurs. Alors je vais passer au point 2, qui est essayer d'augmenter la tension de cellules. Et là, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors, toujours pareil, on va essayer d'utiliser les liquides ioniques. Alors les liquides ioniques, ce dont je vous ai parlé là, c'était à température ambiante. Parce que les liquides ioniques, si vous vous souvenez, sont des électrolytes sans solvant. Ils ont deux défauts majeurs. Un, la conductivité qui n'est pas très très bonne, mais surtout, dès qu'on baisse un peu la température, ils sont solides, quasi. Alors, ce qu'on a essayé de voir, normalement je devais avoir une animation, on n'y est plus, c'est qu'on a fait des mélanges de liquides ioniques. Pourquoi on s'est intéressé à des mélanges de liquides ioniques? On a essayé de mélanger des liquides ioniques pour diminuer la température de solidification. On est parti d'un liquide ionique, piperidinium N3, FSI, ça c'est le cation, ça c'est l'anion, pardon, ça c'est le cation, ça c'est l'anion, et ça c'est des mesures par DSC, par calorimétrie, et là vous voyez un pic, donc ça c'est le pic de solidification, de fusion, à 6 degrés C. Donc ce liquide ionique seul, température de solidification 6 degrés C. On a pris un autre liquide ionique, on a pris le même anion, vous voyez, cet anion, c'est le FSI, c'est celui-là, et on a pris un cation, pyrolidinium N4, c'est ce gros cation-là. Température de solidification, moins 18 degrés. Donc, en dessous de moins 18 degrés, il est solide. Et lui, en dessous de 6 degrés, il est solide. Et bien, si vous mélangez les deux, même anion ici, et deux cations différents, vous n'avez plus de température de solidification. Pourquoi? Et bien, parce qu'en fait, on a le même anion, et ces cations, en fait, le piperidinium et le pyrolidinium, ce sont des cations de même masse molaire, mais qui sont asymétriques. Et donc, quand on casse la symétrie, on diminue les interactions, et si on diminue les interactions, on n'a plus de température de solidification jusque moins 70 degrés. Et donc, si on regarde la variation de la conductivité ici, en fonction de la sûreté, on voit que pour ici, le piperidinium, ici, à 6 degrés, on est solide. Pour ici, le pyrolidinium, à moins 18 degrés, on est solide. Et après, le mélange de liquide ionique, on a une variation continue. On est liquide jusqu'au moins 50 degrés. Et ça, c'est vachement intéressant. Et surtout, en fait, la conductivité, elle est tout à fait correcte, elle est 5 millisiemens à température ambiante. Alors, si vous prenez ce mélange de liquide ionique, là, on peut se dire, on peut couvrir une grande gamme de température. Et prenons un carbone poreux, n'importe lequel. Si vous prenez n'importe quel carbone poreux, un carbone commercial qui est utilisé dans les supercondensateurs, microporeux, vous voyez ici, ça, c'est une voltamétrie cyclique, donc on a ce diagramme-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à moins 20 degrés, il n'y a plus rien. À moins 20 degrés, il ne se passe plus rien. Parce qu'en fait, le liquide ionique, il est trop visqueux. Et ce liquide ionique, il ne rentre pas dans les pores. Et donc, en fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre au point une interface entre le carbone et le liquide ionique, qui est visqueux, qui est plus visqueux qu'un électrolyte liquide. Il faut prendre en compte ça pour essayer de faire en sorte que la surface soit globalement accessible. Eh bien, il y avait un papier qui était sorti en 2011 dans Science, où c'était Ruoff, qui présentait du graphène activé. Donc, c'était des feuilles de graphène, et il l'activait, il faisait des trous dans le graphène. Et ce qu'il avait comme matériau, c'était un peu ça, c'était un matériau avec une surface très accessible, faible densité, mais une surface très accessible, une surface de 2800 m² par gramme. Eh bien, on sait, là, vous avez des voltamétries cycliques de ce matériau, vous voyez, dans un électrolyte liquide, qui donne des choses tout à fait correctes, avec des très bonnes capacités. Mais ce type de matériau, il a une surface accessible qui, a priori, est très élevée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce matériau, le graphène activé, et on l'a mis utilisé dans notre liquide ionique, mélange de liquide ionique. Et ce que vous voyez, c'est que ça sont les voltamétries cycliques de température ambiante à 80 degrés. Donc déjà, on a une tension de cellule qui est de 2-3 volts, ce qui est déjà bien. Même on peut aller jusqu'à 3,5 volts à température ambiante. Et surtout, on a une très bonne capacité de 170 farads par gramme. On a vraiment des capacités très intéressantes. Une capacité élevée, une résistance ici relativement faible, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que si vous allez à moins 40 degrés, moins 50 degrés, eh bien vous voyez, on a toujours une signature électrochimique. C'est-à-dire que là, à moins 50 degrés, grâce à ce liquide ionique tactique et grâce à cette électrode de grande surface, on est capable d'avoir un système qui fonctionne toujours, alors bien sûr, il y a des performances dégradées, il fonctionne toujours à une température très basse. Et donc ça, ce type de liquide ionique, ce mélange de liquide ionique eutectique qui permet de descendre à très basse température, c'est aujourd'hui ce qui permet de couvrir la plus large gamme de température de moins 40 à plus 100 degrés. Alors, bon, c'est intéressant, mais Jean-Marie l'a présenté. Donc, nous, on a un problème dans les supercondensateurs, on utilise l'acétonitrile. Et du point de vue de la sécurité, ce n'est pas très bien. Donc, il y a de plus en plus de travaux qui se dirigent vers la réalisation de supercondensateurs tout solides. Alors, je mets des guillemets à tout solide parce que ça n'a rien à voir avec le tout solide qui a été présenté par Jean-Marie Tarascon avec les oxydes ou les sulfures de conducteurs ioniques solides. Nous, c'est plutôt des tout solides. Ce sont des espèces de gels qui sont plus ou moins solides. Et en particulier, il y a des électrolytes ionogels qui ont été mis au point par Jean Lebideau à l'IMN à Nantes. Et ces électrolytes ionogels, Ben, ça consiste en une matrice de silice SiO2 dans laquelle on va venir à l'intérieur emprisonner du liquide ionique. Et, alors, c'est relativement simple, c'est, on fait une réaction sol-gel, donc on prend des précurseurs de silice, donc des étoxysilanes, et on prend un peu d'acide pour catalyser, on chauffe tout doucement pendant 20 minutes, et on va avoir une réaction d'hydrolyse-condensation, on va former la matrice de SiO2 au fur et à mesure. Et au bout de quelques minutes, dans cette matrice en train d'être formée par réaction Scholl-Gell, on rajoute le liquide ionique, notre mélange de liquide ionique. Donc on rajoute ça là-dedans. Et quand vous faites ça, à la fin, vous obtenez, après refroidissement, après 5 jours à 50 de séchage à 50 degrés, vous avez ici, vous voyez, c'est un gel qui est relativement dur. Et ce gel, si vous regardez sa conductivité en fonction de l'insûreté, vous voyez que ce ionogel, en fait, il est solide jusqu'à... il a une conductivité qui est très bien jusqu'à moins 50 degrés. Donc ce ionogel, c'est de la silice rigide avec du liquide ionique à l'intérieur. Comme on utilise le liquide ionique eutectique, on descend jusqu'à moins 50 degrés en température d'utilisation. Mais on a essayé d'utiliser ce ionogel dans les supercondensateurs. Alors là, c'est vraiment de l'ingénierie. Vous prenez l'électrode de carbone que vous avez montré tout à l'heure, qui est du carbone poreux avec du liant. Vous coulez du ionogel dessus. Une deuxième électrode, vous mettez, vous comprimez un peu. Là, c'est une vue en coupe de l'électrode imprégnée de ionogel plus le ionogel. Et quand vous faites des voltamétries cycliques à différentes températures, ça, c'est à 60 degrés, vous voyez que vous allez à une tension de 3 volts et vous fonctionnez jusqu'au moins 40 degrés. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a une électronique, là, il n'y a plus de phase liquide dedans. Donc le supercondensateur, vous le prenez à la main, il n'y a plus de liquide. Donc vous avez une tension de 3 volts, ça fonctionne à 60 degrés, ça fonctionne jusqu'au moins 40 degrés, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une capacité de 80 farads par gramme. On a une capacité qui est diminuée de seulement 30% par rapport à un liquide, un électrolyte liquide. Et ça, ça pose des questions, parce que pourquoi on a une capacité élevée dans un électrolyte quasiment solide, alors qu'on a des micropores, des pores nanométriques? Comment ça se fait que ce gel peut rentrer dans les pores nanométriques? Parce que si vous avez un gel comme ça et une structure de carbone comme ça nanométrique, ça c'est un centimètre, ça c'est un nanomètre, ben, on a du mal à imaginer que le gel rentre partout dans ces pores nanométriques. Eh bien, et ça, c'est ce qui est c'est la beauté de ces structures de carbone et l'intérêt de ces structures de carbone, c'est qu'on a réussi à comprendre pourquoi. Et je vais vous montrer, en fait, on a pris des ionogels qu'on a mis entre deux électrodes de carbone. Et on a mesuré la résistance au fur et à mesure du temps. Ça, ce sont deux électrodes de carbone non poreux, c'est du carbone amorphe. Alors ça, c'est un diagramme d'impédance, de la partie imaginaire de l'impédance, la partie réelle. Ce qui est important, c'est ce point ici. Ça, c'est la résistance. Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, le ionogel entre deux électrodes de carbone denses, l'impédance ne bouge pas au fur et à mesure du temps. Je prends maintenant deux électrodes de carbone poreux, notre carbone activé par exemple, je mets un électrolyte ionogel entre deux électrodes de carbone poreuses, et je vois que l'impédance, au fur et à mesure du temps, la résistance, elle ne fait qu'augmenter. Elle fait qu'augmenter pourquoi ? Ben parce qu'en fait, j'ai une matrice de SiO2 hydrophile. J'ai un carbone hydrophobe, j'ai un électrolyte liquide ionique à l'intérieur de la matrice hydrophobe. Eh bien, une partie de la phase liquide de liquide ionique va partir par capillarité, aller mouiller les nanopores. Et donc, on se retrouve avec un système dans lequel on a une petite dépression de liquide dans le ionogel, c'est pour ça que la résistivité augmente, mais surtout, la phase liquide du ionogel va venir mouiller et aller accéder par capillarité à l'intérieur des nanopores. Et c'est pour ça que malgré que ce soit un électrolyte quasiment solide, on a quasiment toute la capacité qu'on a en liquide ionique. Et ça, en électrolyte liquide. Et ça, c'est vraiment important. C'est une spécificité des supercondensateurs qui montre que les carbones poreux, alors après, il faut jouer sur le côté hydrophobe, hydrophile, hein, des interactions entre la matrice et le carbone, mais ça montre la spécificité des carbones poreux, des supercondensateurs, pour ces électrolytes ionogènes. Bon, seulement, vous voyez que cet électrolyte ionogène, il est un peu fragile. Quand on le coupe, il se casse, il se fissure. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un ionogel flexible. Et pour faire un ionogel flexible, vous voyez que là, ces précurseurs de silice, ils peuvent réagir dans les quatre réactions, former une matrice de silice dans les quatre dimensions, et donc on a du mal à contrôler la vitesse de réaction sur le gel. Par contre, si on rajoute à ces précurseurs de silane, ces silanes, si on rajoute du PDMS, hein, du polydiméthyl sulfoxylane, siloxane, eh bien vous voyez qu'on bloque ici, par les CH3, on bloque deux sites réactionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que de la réaction sur les deux branches ici, sur les deux H. Et ça va nous donner de la flexibilité à notre système. Et donc, on a fait des sol-gel avec ces compositions. Donc, ça, c'est l'alcool, ça, ce sont les trois précurseurs, un peu d'eau, un peu d'acide. Et on a fait nos ionogel, et dans le but de faire ces ionogels flexibles. Et là, je vous montre des photos. Le ionogel, une fois, alors, qui contient du liquide ionique, là, c'est de l'EMI-TFSI. Ça, c'est l'ionogel une fois préparé. Vous pressez à la main l'ionogel. Alors, on ne voit pas bien, mais il y a des gouttes de liquide qui sortent. Et quand vous décompressez, après compression, ben, le liquide est re-rentré à l'intérieur. Sauf qu'on a fait des mesures de Muldoon-Young de ce ionogel, et on a un domaine de déformation plastique, c'est-à-dire qu'on est venu écraser et mesurer des déformations. Avec ce ionogel, on a un domaine de déformation plastique de 40%. C'est-à-dire que quand vous comprimez, vous relâchez, eh bien, il va rester 40% de déformation irréversible. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on a fait, donc ce ionogel libère l'électrolyte liquide sous pression, et ce qu'on a fait, c'est on a fait un supercondensateur, on a mis deux électrodes de carbone, une tranche de ionogel. Là, on n'a pas mis de ionogel dans les carbones. On a mis ça entre deux collecteurs de courant. Donc vous voyez déjà ici, ça c'est une microscopie optique 3D, donc on n'a pas de fissure ni rien. Et surtout, quand on compresse, eh bien, on vient venir ici mouiller, expulser le liquide ionique du ionogel. Et comme on a une déformation plastique quand on relâche la pression, eh bien, on a toujours l'électrolyte dans les pores. Et vous voyez, on a des voltamétries cycliques qui sont excessivement bien à 25 degrés, des capacités très élevées, 120 farads par gramme pour un électrolyte tout solide. Et ce système, il est solide. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est pas de la céramique, attention. Hein. Il est solide, gélifié, j'insiste bien. C'est pas un électrolyte céramique. Mais donc ça vous montre que les ionogels, grâce à cette expulsion de la phase liquide par capillarité qui va aller mouiller les nanopores, les ionogels, ça offre vraiment des très très belles opportunités pour les supercondensateurs. Donc ça, ce sont des résultats très récents. Et en particulier, on peut imaginer ce genre de choses-là pour être utilisé pour des capteurs de pression ou ce genre de choses-là. J'arrive à la dernière partie, donc encore 5 petites minutes de l'exposé, qui parle un peu des perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le domaine de ces supercondensateurs ? Mais je dirais que la première chose, c'est ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a... on suit en fait les batteries, hein, parce qu'on n'invente rien. Mais les batteries, il y a bien sûr toute la chimie du solide, toute la cristallographie, donc toutes les techniques in situ pour les batteries, elles ont été développées depuis des dizaines d'années. Dans les supercondensateurs, ça commence à arriver un peu. C'est juste cet effet de l'étude du confinement qui motive le développement des techniques. Mais il y a beaucoup de techniques pour étudier le confinement des ions qui ont été appliquées aux supercondensateurs, du SACS in situ, de la RMN, de l'infrarouge in situ, il y a du Raman in situ aussi, puis il y a aussi de l'étude de la dilatométrie in situ, qui montre des choses vraiment très intéressantes. Puis il y a une autre technique, c'est de l'EQCM, ce qu'on appelle la mesure de la dissipation par EQCM, qui est du groupe de chez Laurent Norbar. Ce sont des techniques vraiment très intéressantes, c'est une autre forme de EQCM, qui permettent vraiment en ce moment d'aller de plus en plus profondément, d'aller de plus en plus loin dans le domaine du mécanisme, des flux ioniques, de l'absorption et du confinement des ions. Puis il y a cette technique ici que j'aimerais, je vais prendre la peine de mentionner pendant une petite minute, qui vient de chez Hubert Perrault et Gabrielli, pas très loin d'ici, du Lise à Paris, qui s'appelle l'EQCM en mode alternatif. En fait, c'est combiner des mesures EQCM gravimétriques avec sur un système fréquentiel. Et grâce à des fonctions de transfert un peu compliquées, eh bien, le groupe de Perrault, qui vient en 2016 d'appliquer cette technique-là au stockage capacitif, eh bien, ils sont capables de différencier les contributions, les mouvements des ions, des cations, des anions, différencier la contribution de différents cations, si vous avez des K+, et des H+, on voit directement quand les H+, et les H+, interagissent, et différencier aussi la contribution, le mouvement des molécules de solvant, en une seule manip. Alors, c'est une technique assez compliquée, mais quand elle est au point, ça donne des résultats vraiment performants, et je pense que cette technique-là, arriver à bien la maîtriser, ça offrera des opportunités vraiment importantes dans le domaine. Ensuite, il y a bien sûr toutes les techniques de modélisation. Donc, ce que j'ai montré un peu, hein, c'était les premières modélisations. Vous voyez que quand on confinait les ions, on désolvatait partiellement par rapport au gros cortège solvatation. Après, il y a eu beaucoup de modélisations sur des carbones idéaux, des nanotubes, etc. Puis des modélisations sur des carbones un peu réels. Et l'objectif étant ici, avec ces techniques de modélisation, de prédire les structures de carbone optimisées, en particulier les structures, j'ai oublié le nom, je crois que c'est le verzite, qui avait été prédite théoriquement par Terrones, le graphite avec une curvature négative, le graphène avec une curvature négative. Donc tout ça c'est un outil précieux pour essayer de nous donner des indications vers quel type de structure aller et après les réaliser. Ensuite, au point de vue des électrolytes, ça c'est un travail qui a été fait dans le cadre du RSEE par un groupe de Montpellier, le groupe d'Olivier Fontaine à Montpellier. Ils ont changé un peu le paradigme, ils ont travaillé sur l'électrolyte. Ils se sont dit, bien voilà, l'électrolyte, on peut essayer de stocker les charges dans l'électrolyte. Ce qu'ils ont fait, je vous ai parlé de l'EMI-TFSI, eux ils ont utilisé du BMI-TFSI, mais ils l'ont fonctionnalisé. C'est-à-dire qu'ils ont pris du BMI, ils ont fonctionnalisé avec un groupe redox dessus. Et lorsque le BMI va s'absorber à l'électrode, en plus il va faire un transfert de charge grâce à ce redox qui est fonctionnalisé. Ils ont fonctionnalisé les cations et les anions. Et donc quand on charge et qu'on décharge, on vient en plus charger, enfin en plus de la double couche, on vient transférer un électron. Et c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est l'électrolyte, un carbone qui cycle, c'est le courant en fonction du potentiel, dans un électrolyte BMI-TFSI non modifié. Et ça, c'est le même courant dans un électrolyte BMI-TFSI modifié. Donc le BMI et le TFSI ont un greffage avec des molécules redox. Et vous voyez que vous augmentez, vous doublez la capacité. Et ça, c'est quand même une solution très élégante et puis un concept un peu différent, innovateur, qui devrait permettre d'augmenter la capacité et la densité d'énergie. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les matériaux pseudo-capacitifs. C'est on sort du carbone. Là, vous voyez, cette voltamétrie cyclique, elle est rectangulaire, elle est symétrique. On a l'impression que c'est de l'adsorption, que c'est du carbone. En fait, non, c'est du RuO2. Et le RuO2, en milieu acide, il va venir se protoner, il va venir se réduire en intercalant protons et jouer sur le couple RuO2-RuO2-X. Eh bien, la réponse électrochimique de ce type de matériaux, c'est un rectangle. On dirait vraiment un stockage capacitif. Mais c'est du pseudo-capacitif parce qu'il y a du redox. Ce sont des réactions redox rapides, confinées à la surface et qui montrent une signature capacitive. L'intérêt, c'est que comme on a une contribution redox, on augmente beaucoup les capacités. L'inconvénient, c'est que ça cycle un peu moins bien que les condensateurs carbone-carbone. Puis le RuO2, c'est un peu cher, donc ce n'est pas forcément très utile. Alors il y a aussi un autre matériau, il y a le MnO2, qui présente la même similarité. Mais le MnO2, il a une capacité pas très très élevée, en fait, comme celle des carbones. Donc ça ne présente pas trop d'intérêt. Mais il y a des matériaux, des nouveaux matériaux, enfin nouveaux, qui ont été sortis il y a 5-6 ans, qu'on appelle des TI3C2. Ce sont des carbures de carbone, des carbures de titane de dimension, 2D, qui sont obtenus par exfoliation, bref. Mais ces matériaux, lorsqu'on les met en milieu acide sulfurique, pareil, on a ici le titane qui va changer de degré d'oxydation en prenant des protons et des électrons, et on va jouer sur une réaction pseudo-capacitive sur le titane. Et si vous regardez les voltamétries cycliques, elles sont symétriques. Alors on voit bien les pics redox, mais ils sont très rapides. Et donc c'est ce qu'on appelle un pseudo-capacitif. On a des capacités très élevées avec ces matériaux, trois fois celle du carbone, et puis des capacités volumiques excessivement élevées. Par contre, on est toujours en milieu aqueux, HDSO4, donc on a une petite tension de cellule de 1 volt. Et là, il faut vraiment travailler à comment faire fonctionner ces matériaux de très forte capacité en milieu organique, dans des électrolytes non aqueux. Ça, c'est un gros challenge, mais il y a vraiment des pistes pour y arriver. Et puis un dernier exemple, c'est ce qu'a fait Bruce Dunn récemment. Donc Bruce Dunn, il a travaillé sur du NBDO5, la lithiation, la réaction d'intercalation des ions lithium dans le NBDO5. Vous voyez, ce NBDO5 un peu spécial, une structure cristallographique un peu spéciale, ça donne une voltamétrie cyclique ici un peu capacitive. Mais il a fait autre chose. Il a réussi à créer une architecture d'électrodes à partir de graphène fonctionnalisé. Il est venu décorer de graphène les petites particules bleues, là, vous voyez. Il est venu décorer sur du graphène des particules de NBDO5. Il a fait une structure 3 dimensions avec son graphène. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a un réseau percolant conducteur électronique, mais aussi un réseau très poreux qui permet une diffusion très rapide des ions Li+. Et là, vous voyez, il est capable d'avoir des capacités de plusieurs milliampères-heure par centimètre carré d'électrode avec des vitesses de décharge relativement importantes. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on peut se servir de ce type de structure comme plateforme pour déposer d'autres types de matériaux, en particulier du pseudo-capacitif. Voilà. Donc, écoutez, c'est un peu la fin de ce que je voulais raconter. Puis, l'un des messages principaux, c'est que, effectivement, les supercondensateurs sont des systèmes qui permettent d'aller à des densités, d'avoir des vitesses de charge et des charges très rapides, beaucoup moins d'énergie que dans les batteries. Alors, il y a beaucoup de choses, ce sont des systèmes a priori très simples, mais on se rend compte que plus on essaie de comprendre comment les ions rentrent dans cette structure de carbone poreuse, plus c'est compliqué. Et il y a encore de très belles choses à regarder. C'est un domaine qui est en pleine évolution et pleine ébullition en ce moment. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec le domaine des batteries, il y a moins de pression dessus, mais c'est quelque chose dans qui se développe beaucoup. Et puis les performances de ces systèmes commerciaux arrivent maintenant vraiment à maturité. On les utilise vraiment maintenant partout. Alors je vais juste remercier les collègues permanents de Yuri Gogotsi à Drexel, Bruce Dunn UCLA, Claire Gray à Cambridge et Kaneko à Hsinchu, puis remercier les sponsors et le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie. Et puis voilà, le groupe qu'on est à Toulouse, on n'est pas beaucoup, mais on est quatre permanents, et puis on essaie de s'internationaliser beaucoup, même si c'est beaucoup vers les pays asiatiques de l'Est. Et je voulais aussi beaucoup, bien sûr, vous remercier pour votre aimable attention.